ce 12 mars, sa rencontre spirituelle, je compte vous parler de quelqu'un qui est mort en 1940, le bienheureux Luigi Orione. C'est extrêmement intéressant car ça recouvre tout le problème de la présence de Dieu, cette présence qui nous est immédiate. C'est un homme qui a vécu dans la présence de Dieu. Ça lui a été enseigné par sa mère, tout jeune. C'était autrefois, le 12 mars, la fête de Saint Grégoire le Grand, mais la fête a été déplacée depuis quelques années. Et c'est aussi la fête de quantité de saints, presque tous intéressants, mais absolument inconnus, comme un martyr de l'an 303, Saint-Pierre de Nicomédie, ou le pape Saint-Innocent Ier, puis Saint-Paul de Léon, un évêque du VIe siècle, et ainsi de suite. Mais je passe au bienheureux Luigi Orione, O-R-I-O-N-E, évidemment un Italien, on peut l'appeler Louis, si on préfère, plutôt que Luigi. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je m'inspire d'un texte écrit par le père abbé d'un monastère français, c'est l'abbaye Saint-Joseph de Clerval, qui nous explique un peu ce que c'est que Luigi Orione. C'est très intéressant, très, très, très intéressant. Car c'est lui qui est attentif à la présence de Dieu en lui, là, au plus intime de son être, au fond de son cœur. Mais celui-là commence dès ici-bas sur la terre, oui, au jour le jour, à jouir au fond du bonheur des saints, du bonheur des bienheureux, ce bonheur qu'ils éprouvent en présence de Dieu pour l'éternité. Quand on est jeune, on se dit, mon Dieu, ça doit être ennuyant, être au ciel. Qu'est-ce qu'on fait à regarder Dieu pendant l'éternité? Ça doit devenir ennuyant. C'est que quand on est jeune, on ne sait pas encore ce que c'est que l'expérience de la présence de Dieu. Mais quand on y a goûté, et si on se souvient bien, certains d'entre nous ont eu une espèce de sens de la présence de Dieu au même à 6-7 ans, quand on faisait notre première communion très jeune autrefois, il y avait un sentiment de la présence de Dieu qui était très fort, très spécial pour certains d'entre nous, car on avait un tel enseignement sur la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Ça nous était enseigné d'une façon tellement claire et tellement forte que nous étions tout émus de recevoir sur la langue ce petit morceau de pain rond, blanc, immaculé, qui symbolisait comme un soleil la présence de Jésus-Christ. Et c'était bouleversant. Et on avait aussi ce sentiment, quand on allait dans les églises qui étaient ouvertes partout, de voir des gens qui étaient en adoration et en prière. Ce qui est difficile de voir aujourd'hui, il y a si peu d'églises ouvertes. Car Dieu, notre Père, ne se contente pas, évidemment, de nous créer pour nous faire jouir éternellement de lui au paradis. Il veut du plus profond de son cœur que nous puissions avoir ici-bas, sur cette terre, un avant-goût de cette béatitude en étant toujours en sa présence. Et pour être toujours en sa présence, ça se fait par la foi. Évidemment que les distractions sont inévitables, ça c'est sûr. Mais c'est une espèce de fond de toute notre journée qui fait que nous sommes en présence de Dieu. Et ça se fait dès le matin. Je vous l'ai déjà dit bien des fois. Si vous le pouvez, quand vous vous levez, quand le réveil sonne, n'hésitez pas 2 secondes, si votre cœur vous le permet aussi, de presque sauter en bas du lit, de vous jeter à genoux. Si vous voulez, vous pouvez vous placer le front contre le tapis, un peu à la façon des musulmans, et de dire au fond de votre cœur, « Oh mon Dieu, je suis en toi, puisqu'il est partout, nous sommes en lui. Alors je suis en toi, et tu es en moi. » Nous sommes sûrs que Dieu est en nous, il nous l'a dit, c'est Jésus qui dit, « Celui qui croit en moi, mon Père et moi, et l'Esprit Saint évidemment, viendrons à lui, nous y ferons notre demeure. Il dit « nous » au pluriel, mais c'est un seul Dieu qui est présent à nous, qui nous habite. Et c'est pour ça que dans l'oraison, dans la méditation, dans le recueillement, il s'agit de creuser toujours comme des espèces de sphères, la sphère de l'immédiateté des petites choses qui nous préoccupent, notre marché chez Provigo ou chez Métro, vous voudrez, je ne veux pas faire d'annonce là, les coups de téléphone à faire, des choses, et puis là on descend dans une autre sphère, qui est la sphère des réflexions un peu plus sérieuses, et sur nos amours, nos amitiés. Et petit à petit, on descend jusque là où est Dieu. Dans ce silence intérieur. Hein. Et c'est la foi. Hein. La foi nous fait goûter, c'est saint Paul qui le dit, la foi nous fait goûter comme à l'avance la joie et la lumière de la vision béatifique. La vision béatifique, je vous le rappelle, hein, pour les plus jeunes qui connaissent pas le mot béatifique. Béatifique, ça veut dire que ça remplit de bonheur, une vision qui remplit de bonheur éternel, puisqu'on est en, on voit Dieu. Alors donc, il dit, saint Paul, la foi nous fait goûter comme à l'avance la joie et la lumière de la vision béatifique, but de notre cheminement ici-bas. Nous verrons alors Dieu face à face. C'est écrit il y a 2000 ans. Hein. Et nous le verrons face à face, dit saint Jean dans sa première épître, tel qu'il est. C'est une promesse extraordinaire. La foi, c'est donc déjà le commencement de la vie éternelle, c'est dit dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 163, ce catéchisme qui a été publié il y a quelques années à peine, qui se vendait un immense bouquin pour $15 seulement, et qui est très intéressant à lire, hein, à rire ici et là. Bon, mais on peut passer par-dessus, mais il y a de très beaux passages. Et la fin, c'est sublime sur la prière. C'est très, très beau, ce catéchisme. Là, c'est vendu à 10 millions d'exemplaires, mais combien de millions ont été lus et étudiés, je me le demande parfois, ça m'inquiète. Hein. La Bible nous enseigne d'ailleurs qu'il existe un rapport étroit entre la pensée habituelle de la présence de Dieu, puis ce qu'on pourrait appeler la perfection morale, si vous voulez, la sainteté. On ne peut pas arriver à la sainteté sans avoir ce sens de la présence de Dieu. Impensable. Quand on lit dans l'Ancien Testament toutes sortes de récits, c'est intéressant si on a l'attention. Quand il est question de Noé, vous dites que je m'en vais loin, hein, au déluge. Mais on dit que Noé était un homme juste et marchait avec Dieu. C'est beau, ça. Il marchait avec Dieu. Donc, il était en présence de Dieu. C'est dans la Genèse, au chapitre 6. À Abraham, celui qui est le modèle des croyants, de tous les croyants des trois grandes religions, Abraham, Dieu lui dit, « Marche devant moi et sois parfait. » C'est dans la Genèse, au chapitre 17. C'est très beau, ça. « Marche devant moi et sois parfait. » Comme si Dieu, derrière nous enveloppait de toute sa présence, les bras autour de nous. Hein. On constate d'ailleurs que les saints de l'Ancien Testament, ils avaient un soin très, très, très particulier de marcher toujours en la présence de Dieu. C'est dans les psaumes, au psaume 16. Hein. « Je mets le Seigneur constamment sous mes yeux. Je mets le Seigneur constamment sous mes yeux. Il se tient à ma droite pour que rien ne me trouble. » Alors, ceux qui oublient la présence de Dieu, à mon sens, deviennent inévitablement des pécheurs. D'ailleurs, c'est dit au psaume 9, psaume numéro 9, là. Il n'a point Dieu devant les yeux, c'est pourquoi il s'est souillé de toutes sortes de crimes. Est-ce que c'est pas ce qu'on voit actuellement dans le monde, actuellement? Sans vouloir accuser qui que ce soit ou les blâmer, je les plains plutôt, tous ces criminels. Pensez à ces deux jeunes garçons qui viennent de massacrer un chauffeur de taxi. Qu'est-ce que c'est, pourquoi ces crimes? Ils sont loin de Dieu, si loin de Dieu, qu'ils font des choses impensables. Ça, c'est celles qui sont signalées dans les journaux, mais quand on se regarde soi-même et qu'on s'éloigne un peu de Dieu, on se rend compte que l'on fait des choses stupides. C'est comme un navire sans gouvernail, quelqu'un qui n'a pas le sentiment de la présence de Dieu. un navire sans gouvernail s'en va n'importe où. Hein. Parce qu'un homme, une femme qui n'a pas de gouvernail de la présence de Dieu, à mon sens, il court à sa ruine, hein, il s'abandonne inévitablement à toutes sortes de passions déréglées. Je parle pas rien que du sexe, là. Je parle des passions déréglées, de tout ça. L'achat inutile de toutes sortes d'objets dont on n'a pas besoin. Le désir de partir constamment en voyage pour aller on ne sait pas où. L'argent dépensé pour rien alors qu'il pourrait s'appliquer aux pauvres, aux plus délaissés, à l'aide à l'Église en détresse, dont il était souvent question autrefois sur les ondes, l'aide à l'Église en détresse, qui aide à travers le monde des gens qui sont dans la misère épouvantable. D'ailleurs, c'est écrit dans l'Exode, noir sur blanc, les anciens de la maison d'Israël font le mal dans les ténèbres, chacun dans sa chambre, et ils disent, le Seigneur ne nous voit pas. Curieux, hein? C'est écrit ça il y a plus de 2500 ans. Saint Jérôme, il y a bien longtemps encore, qui commence ce passage du livre de l'Exode. Si, lorsque nous nous laissons aller au péché, nous songions que Dieu nous voit et qu'il est présent, nous ne ferions jamais rien qui puisse lui déplaire. Oh, je m'excuse, c'est pas l'Exode, c'est le livre d'Ézéchiel. Pardon. En somme, quand on y pense, les mystiques disent avec raison que l'exercice de la présence de Dieu qu'a pratiqué l'abbé Luigi Orione, le mort en 1940, c'est le fondement de la vie spirituelle. Car la vie spirituelle consiste en trois choses. Hein. C'est bon de l'apprendre une fois pour toutes. Hein. D'abord, évidemment, on le sait, il faut fuir le péché. Bon, c'est évident. Parce que pourquoi? Le péché, c'est attirant, mais ça blesse en nous notre appartenance à Dieu. Pourquoi? Parce que dans le péché, on se recherche soi-même, on satisfait des éléments plutôt bas en nous qui nous empêchent de vivre avec le sentiment de la présence de Dieu. Et le sentiment profond, c'est de la présence de Dieu dans les autres. Ça bloque au fond notre cœur, la générosité de notre cœur, hein, le péché. C'est pour ça que c'est un péché. Le deuxième chose, c'est la pratique de la vertu. Alors si on fuit le péché, c'est pas pour rester à rien faire. C'est pour se mettre tout à coup à être, on appelle ça vertu, comment dirait-on? Avoir, pour utiliser le vocabulaire d'aujourd'hui, avoir le sens des valeurs, les mettre en pratique, les valeurs, les vraies valeurs, les valeurs profondes, hein. Éviter toutes les sottises, mais faire quelque chose, faire, agir, hein. Puis la troisième chose, c'est l'union à Dieu. L'union à Dieu. Toujours avoir ce regard intérieur vers celui qui nous a fait, celui qui nous aime, celui qui nous entoure, celui qui nous aspire, qui veut pour l'éternité que nous soyons en sa présence, car il nous aime comme un père avec un cœur de mère. Et c'est sûr que le souvenir de Dieu présent partout ne peut que nous pousser en quelque sorte à vivre selon une rectitude de pensée et un sens profond des valeurs. Dieu, c'est le Père aimé qu'on ne voudrait pas peiner par nos offenses. C'est ça le péché. C'est peiner le cœur de Dieu, lui faire de la peine en le blessant, en l'oubliant, pour abuser des biens qu'il nous a donnés. L'avarice, la gourmandise, la luxure, toutes ces choses où on abuse. Il ne s'agit pas de ne pas en user. Il s'agit de ne pas en abuser de façon égoïste, qui développe en nous toute notre présence égoïste à nous-mêmes et qui ne laisse plus de place à la très sainte Trinité. Dieu, c'est celui que l'on ne peut pas mépriser sans s'exposer à le fuir pour toujours. Oui, les peines éternelles. La fuite de Dieu pour toujours. rejeter Dieu pour toujours, c'est épouvantable. Dieu, c'est surtout celui, en fait, que nous aimons et avec lequel on souhaiterait vivre toujours unis. Et c'est pourquoi Saint Benoît, je reviens à Saint Benoît, vous savez, je vous ai déjà confié sans fausse honte que j'ai fait, bon, 2 petites années au monastère Saint-Benoît du Lac, et ça m'a beaucoup marqué de 1944 à 1946. Et nous sommes d'ailleurs ici à la paroisse Saint-Benoît dans le nord de Montréal. C'est pourquoi donc Saint-Benoît recommande que les moines pensent le plus souvent possible à la présence de Dieu. C'est dans la règle, ça, au chapitre 7, hein, il dit « L'homme doit être persuadé qu'en tout lieu ses actions se passent sous les yeux de la divinité. Si donc les yeux du Seigneur considèrent les bons et les méchants, si le Seigneur regarde constamment les enfants des hommes, afin de voir s'il est quelqu'un qui a l'intelligence et qui cherche Dieu. Eh bien, vraiment, hein? Il nous faut, mes frères, veiller à toute heure. Hein? Il faut veiller à toute heure, dit Saint Benoît. Un bon moyen de vivre éveillé, pour utiliser un terme de la spiritualité orientale, hein, l'éveil. Nous aussi, les chrétiens, nous devons être éveillés. Ça n'appartient pas qu'aux orientaux, c'est évident. Bon, ben, un bon moyen de vivre éveillé en présence de Dieu, là, c'est de penser souvent à la mort. Je voyais hier une belle émission à Radio-Québec, c'était superbe, vers la fin, sur des vieillards et des gens très âgés qui vivent dans des résidences, là. Bon, je dis des vieillards parce que moi-même, j'arrive, là, 70 ans, c'est un mot... Moi, ça me fait pas peur. Ces mots-là, c'est un mot. Comme la mort, ça fait pas peur. C'est un passage. Et justement, il y avait cette personne, cette femme rayonnante de joie qui disait que quand on est à notre naissance, là, on a peur de naître. On a peur de sortir. Et notre mère a été obligée de pousser, de forcer. Puis parce qu'on résiste, on a peur. Mais quelle joie on a de sortir et d'être serré contre le sein de notre mère et d'ouvrir les yeux petit à petit et de reconnaître notre père, nos frères, nos sœurs et les plantes et tout et la beauté de la vie ici sur terre, c'est beau la vie. Il y a de très belles choses, hein, que de belles choses ici-bas. Et là, on a peur de quitter ces beautés, ces choses auxquelles on est attaché en dépit des souffrances parce qu'on a peur d'aller de l'autre côté, mais ce sera encore plus beau. Et elle le disait avec un tel émerveillement, c'était sublime. Alors, il faut souvent penser à la mort. Saint Benoît, d'ailleurs, invite ses moines, dit-il, à avoir tous les jours la mort présente devant les yeux. C'est au chapitre 4. La perspective de la mort, ça détourne du péché, ça donne du courage pour pratiquer le bien. Et le pape Jean-Paul II, d'ailleurs, nous exhorte à ne pas oublier, il le dit, hein. Je reviens souvent au pape. Ça ne me gêne pas du tout, je l'aime beaucoup. La civilisation contemporaine, dit Jean-Paul II, fait tout ce qui est en son pouvoir pour détourner la conscience humaine de l'inéluctable réalité de la mort, en tentant de pousser l'homme, et la femme évidemment, à vivre comme si la mort n'existait pas. Et cela s'exprime dans les faits, par la tentative de détourner de Dieu la conscience de l'homme, de le faire vivre comme si la mort n'existait pas. La réalité de la mort est cependant évidente. Et le pape termine en disant, dans cette homélie du 23 avril 1995, il dit « L'homme craint la mort comme il craint ce qui vient après la mort. Il craint le jugement et la punition et cette crainte a une valeur salvifique. Ça nous permet de nous mettre en marche. Un peu de crainte et de peur, c'est pas une mauvaise chose. » Il ajoute « Elle ne doit pas être effacée dans l'homme. » Mais cette peur doit s'abandonner à la miséricorde de Dieu aussi en même temps, à la joie de rencontrer Dieu, à la joie de le voir. Et c'est comme ça qu'a vécu le bienheureux Luigi Orione. Il ne faudrait pas penser que l'habitude de vivre en présence de Dieu, ça rend inactif, ça nous fait peur, ça nous fait nous perdre dans les nuages. Le pape Jean-Paul II a bien béatifié le 26 octobre 1980 ce prêtre Luigi Orione, qui, dans une activité absolument débordante de vie, a toujours conservé la pensée de la présence de Dieu. Alors, Luigi Orione, c'est un petit piémontais, donc un Italien du Piémont, qui ne manque pas d'originalité. Il est né à Alexandrie, ça s'appelle comme ça, Alexandrie dans le Piémont. Et à 13 ans, ses camarades l'ont surnommé le chat sauvage. Un petit numéro, quoi. Né en 1872, il a été élevé par sa mère, de très fervente chrétienne. Hein? Elle sait, sa mère, comment s'y prendre pour lui inculquer deux principes. D'abord, Dieu est là, oui, Dieu est là, puis Dieu te voit. Mais sa mère est un peu rude. Hein? Luigi ne manque pas d'être corrigé. Il va même dire de sa mère, « Elle m'a dressé ». Bon, donc il y avait pas mal de discipline. Mais très tôt, là, cet enfant-là, Luigi Orione, qui est un petit turbulent, bien, il voit apparaître dans le fond de son cœur le désir d'être prêtre pour mieux s'unir à ce Dieu-là, qu'il sait être là et qui le voit, hein, mais qui est invisible. Et dans cette intention, puis dès que l'âge lui permet, bien, il entre où? Chez les Capucins. Comme l'abbé Pierre, hein, vous avez déjà entendu l'abbé Pierre raconter son séjour chez les Capucins, il est passé 7 ans, c'est extrêmement sévère à cette époque, très 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 sévère, et hélas, après quelques semaines, ben Luigi Orione ressent des palpitations cardiaques, et puis le médecin prétend qu'il devrait quitter les Capucins sans ça, il va mourir, c'est quelque chose, hein. Alors, les supérieurs sont formels, il doit quitter le couvent des Capucins, alors il a de la peine. Mais il perd pas sa confiance en Dieu, qui est son seul trésor. Hein? Alors, il retourne pour quelque temps dans son village. Et puis, en fait, son petit village est près d'Alexandrie, ça s'appelle Ponte Curone, pour ceux qui connaissent ça. Mais bien vite, le Saint-Esprit lui inspire d'entrer où? Chez les Salésiens de Don Bosco, dont je vous ai parlé, Don Bosco, là, le 31 janvier. Vous avez beaucoup aimé ça, cette émission-là. Les cassettes existent. Et dès sa première entrevue avec ce grand saint merveilleux qui est Saint-Jean Bosco, Don Bosco, ben l'un et l'autre, Don Bosco est âgé, hein, et l'un et l'autre sentent qu'ils sont sur la même longueur d'onde et puis ils deviennent de grands amis en dépit de la différence d'âge, mais Luigi Orione éprouve une bien grande déception, car Don Bosco meurt quelque temps plus tard. Alors, il laisse Luigi Orione, on pourrait dire, seul avec Dieu. Alors, c'est une deuxième épreuve. Et plus rien ne le retient chez les Salésiens. Ça ne le tente pas de rester là, finalement, si Don Bosco n'est pas là. Mais il perd pas la perspective du sacerdoce. Là, il est jeune. Hein. Il fait une drôle de choses, c'est très très étrange. Il veut devenir prêtre. Après ces deux essais de vie religieuse, bien une question se pose, est-ce que vraiment le Dieu veut qu'il devienne un prêtre séculier? Alors écoutez bien, ça c'est vraiment amusant. Il est original, hein? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on l'appelait le chat sauvage. Alors il demande à Dieu 3 signes pour savoir s'il doit entrer au grand séminaire. Alors premièrement, y être accepté sans en avoir fait la demande. Deuxièmement, avoir une soutane qui lui aille à la perfection sans qu'on ait pris les mesures, c'est complètement ridicule. Troisièmement, surtout voir revenir à Dieu son Père éloigné de toute pratique religieuse. Alors, on peut s'imaginer que Jésus a dû sourire devant les deux premiers signes que Luigi Orione lui demandait, mais comme Jésus ne veut rien refuser à ce grand garçon qu'il l'aime tant, ben, il ne fait pas nécessairement un miracle, c'est peut-être pas nécessaire, mais en tout cas, par un concours de circonstances, il est admis au séminaire de Tortona sans en avoir fait la demande, c'est très étrange. Hein? Puis il a eu sa soutane telle qu'il la désirait, puis son père s'est converti. Alors les 3 choses sont remplies, alors il devient donc séminariste sans quitter toujours cette idée de la présence de Dieu. Il donne tout de même plus de temps à la prière, à l'examen de conscience, à la méditation, puis il se met à pratiquer certaines pénitences. Il est un homme équilibré. Mais nouvelle épreuve, son père meurt. Heureusement, il était converti, il meurt pieusement, et Luigi, dans la douleur de cette séparation, ben, il remercie notre Seigneur puis la Sainte Vierge de cette mort chrétienne de son père. Alors, il y prie de tout son cœur d'admettre bien vite au ciel son père qui lui est si cher. Là, les conséquences matérielles, ben, se font pas attendre. Hein. Il peut plus payer sa pension au séminaire, alors ses supérieurs lui obtiennent la charge de gardien de la cathédrale, où il va pouvoir gagner, imaginez, 22 livres par mois, c'est pas beaucoup, juste de quoi lui permettre de continuer ses études. alors il ne doute pas un instant que Dieu est là et que Dieu s'occupe de lui. Or, un matin, l'abbé Orione, qui est séminariste, là, rencontre un garçon qui pleure. Il a chahuté au catéchisme et le prêtre lui a donné une gifle, l'a mis à la porte, ce qui est bien plus grave. Alors Luigi Orione le prend dans sa chambre, il y a une chambre à la cathédrale, ça lui fait faire un bon acte de contrition, il fait faire un bon acte de contrition au petit bonhomme, il continue la leçon qui a été interrompue, leçon de catéchisme, et le lendemain, de bonne heure, le gamin revient, il est mieux aller là, avec des compagnons qu'il a rencontrés, qui traînaient dans les rues. Et Luigi leur donne une leçon de catéchisme et met à leur disposition la pièce où il vit, avec les livres nécessaires, et peu à peu, le nombre de ses élèves, qui sont un peu turbulents, mais ça augmente. Et vous allez voir qu'à partir de là, ça va être extraordinaire. C'est une œuvre immense. Bientôt, ils sont jusqu'à 50. Il leur fait le catéchisme. Il les amuse pour les tenir sages. Puis Luigi se donne de la peine, mais il vit heureux. En présence de Dieu. Mais là, les chanoines de la cathédrale n'entendent pas comme ça. Ils sont incommodés par tous ces enfants trop bruyants. Ils décident de réduire le traitement du gardien de 22 à 12 lire par mois. Pour le faire réfléchir, le coup est rude. Et Luigi demande le rétablissement de la somme nécessaire à sa pension au séminaire, parce qu'il promet de ne plus réunir les gamins dans sa chambre, ce qui lui est accordé. Alors là, il va réunir les jeunes sur une petite place où ils pourront jouer, prier et étudier. Et on va voir combien son entente avec l'évêque, qui est un saint, va le faire grandir dans toute cette œuvre magnifique auprès des plus pauvres. Alors, je vous disais que ce séminariste Luigi Orione, qui est mort, je vous le rappelle, en 1940, c'est récent, bien, il y a de la misère avec ces jeunes, là, parce que le monde trouve qu'ils font trop de bruit. Alors, l'évêque, qui ne voit plus passer par la sacristie Luigi Orione avec ses jeunes, il s'informe de ce qu'ils sont devenus, ces petits-enfants. Alors, il offre alors à Luigi Orione, pour ses garçons, son propre jardin. C'est un bon évêque, hein? Et c'est comme ça que prend naissance l'Oratorio San Luigi, qui va prendre un autre nom par après. L'abbé Orione, dont on l'appelle l'abbé, mais il est séminariste, n'arrête pas de remercier le bon Dieu. Le bon Dieu qui n'abandonne, dites-vous bien ça, il n'abandonne jamais ceux qui lui restent fidèles, hein? Je dis pas qu'on meurt pas. Je dis pas qu'on ne peut pas être malade, qu'on ne peut pas être paralysé de façon abominable. Non, c'est pas ça que je dis. Mais il ne nous abandonne pas au fond de nous-mêmes. Sa présence est toujours là. Pensez à Annette Desautels qui était complètement paralysée au bout de l'île, une Québécoise, Montréalaise. Et quand je lui avais demandé à la fin d'une émission religieuse d'où vous vient ce sourire qui vous habite constamment, et elle avait dit, c'est que, d'un secret, mais je vais vous le dire, c'est que j'aime tellement le bon Dieu et je suis si sûr qu'il m'aime. Il faut être sûr que Dieu nous aime. Ça transforme tout. Alors, comme plusieurs des jeunes le désirent être prêtres, mais ils peuvent pas payer leur pension au séminaire, alors, le jeune abbé Orione obtient de l'évêque l'approbation de fonder pour eux un collège. Il déclare les vocations d'enfants pauvres au sacerdoce sont, après l'amour envers le pape et l'Église, mon plus cher idéal, l'amour sacré de ma vie. Bon, puis évidemment, c'est surtout Dieu qu'il aime. Hein? Et c'est en Dieu qu'il aime le pape et l'Église et les vocations d'enfants pauvres. C'est un véritable apôtre, ce jeune séminariste. Il se met aussitôt en quête d'un local. Sur son chemin, il rencontre un élève des Salésiens, là, les religieux de Saint-Jean Bosco, qui lui demande, « Don Luigi, Don, c'est en... » Vous savez que chez les Italiens, on appelle les prêtres comme ça, « Don ». Monsieur, ça veut dire monsieur. « Don Luigi, où allez-vous d'un pas si empressé ?» Alors, il dit, « Je cours ouvrir un collège. » Alors... Le jeune dit, cet élève dit, « Alors je m'inscris. Mais où faut-il que je m'inscrive ?»« Alors voilà le hic, » répond Luigi Orione. « Je suis justement à la recherche d'un local. » Alors le jeune garçon lui dit, « Écoutez, Don Luigi, mon père dispose d'une maison qu'il cherche à louer. Peut-être qu'elle fera votre affaire. » Alors, après avoir remercié cet enfant qui lui est envoyé comme par la Providence, par Dieu, l'abbé Orione se rend immédiatement chez le père, lui expose ses projets, puis lui demande « Quel prix en voulez-vous? » Écoutez bien, ça c'est extraordinaire. « Quel prix en voulez-vous? » Et le propriétaire dit « 400 lire l'année. Cela vous convient-il? » Luigi Orione, qui est tout jeune, 21-22 ans, il éprouve un instant d'effroi. Ces 400 lire, il les a pas. Mais il sait que Dieu est là. Dieu est là pour lui. C'est très important. C'est un homme qui vit en présence de Dieu, je vous le rappelle. Alors un simple regard intérieur vers Dieu et la réponse jaillit sans hésitation. Elle jaillit le convaincante. Il dit, oh, n'ayez aucun doute, monsieur, la Providence y pensera. Alors immédiatement, le marché est conclu. Puis une fois dans la rue, il est absorbé par ses pensées, une petite inquiétude, évidemment, et Luigi Orione entend quelqu'un qui l'interpelle. « Don Orione, Don Orione, quelle bonne surprise! Que faites-vous donc dans ce coin? » C'est une dame âgée de sa connaissance qui lui pose la question. Il dit « J'ouvre un collège. » Alors elle lui dit « Alors, je vous demande de prendre mon neveu. Combien me demandez-vous pour sa scolarité? » Alors il dit « Oh, très peu, ce que vous voulez. » Alors elle lui dit, et vous savez, ça arrive plusieurs fois, ça, dans des choses même. Aujourd'hui, je suis au courant de bien des choses. Elle lui dit, si je vous donne 400 lire, c'est exactement le montant demandé, si je vous donne 400 lire, vous le garderez combien de temps? Il répond en riant, pendant toutes ses études, il est ému. Il sait que Dieu lui répond par la voix de cette femme. Une fois de plus, il vient d'expérimenter la présence aimante, agissante de Dieu en toutes circonstances. Alors, cette dame lui remet aussitôt la somme que Luigi Orione s'empresse d'aller porter, évidemment, au propriétaire de la maison. Et sur ces entrefaites, on lui apprend qu'il est convoqué par l'évêque. Oh là, l'évêque, c'est pas drôle. Là, il lui dit, je retire ma bénédiction. Je ne veux plus entendre parler de votre collège. Alors, Luigi est atterré, mais Dieu ne le laisse pas, il lui inspire une réponse respectueuse puis pleine de confiance. Il lui dit, « Monseigneur, je suis navré, car tout s'était si bien arrangé. » Alors là, il lui explique très simplement comment il a loué le local, de façon absolument inespérée, puis l'argent qui lui est tombé du ciel, pour ainsi dire. C'est un bon évêque, je vous ai dit que c'était un saint évêque. Et il est stupéfait à son tour. C'est un homme de Dieu, alors il dit à Don Orione, allons. Il sourit, puis il dit, je vous rends ma bénédiction. Alors, Luigi Orione est ordonné prêtre le 13 avril 1895. Il serait difficile de trouver des mots là pour exprimer sa joie. De voir, comme ça, s'intensifier par le sacrement de l'ordre, son intimité avec son divin maître, Jésus. Pour quelqu'un qui vit comme ça en la présence de Dieu, être ordonné prêtre, ça doit être extraordinaire. Ça doit être... Oh, je ne peux pas imaginer ce que ça doit être. Ça doit être fantastique. Nous, les laïcs, on peut le deviner un peu. Il y a des gens qui pensent que je suis prêtre. Je ne suis pas prêtre, je suis laïc. Mais ça doit donc être extraordinaire. Alors, il sait que cette union divine va découler... De cette union divine va découler l'efficacité de son apostolat. Alors là, il demande à Dieu, le jour de sa première messe, que tous ceux qui vont l'approcher aillent en paradis, que toujours par son ministère sacerdotal, il puisse conduire les âmes au paradis, dans la vision béatifique de Dieu pour toujours. Car Luigi, lui, ressent cette soif sacerdotale de sauver. Sauver les âmes. Il sent Jésus vibrer en lui, Jésus qui n'a fait que vouloir nous sauver. La possibilité de la damnation éternelle des gens qui l'entourent, ça le porte à faire sien le mot de saint Paul, « Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver à tout prix quelques-uns. » Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 9. Alors, il va répéter souvent à des religieux qui vont l'entourer parce qu'il va fonder. Il dit « Sauvez toujours, sauvez tout le monde, sauvez au risque de tout sacrifice avec passion. » Puis à notre Seigneur, bien, il adresse cette prière qui révèle si bien son âme. Il dit « Venez au Seigneur Jésus, ressuscité dans tous les cœurs, dans toutes les familles, C'est beau ça, ressusciter dans tous les cœurs, dans toutes les familles. Qu'on sente au fond dans notre cœur Jésus ressuscité, qu'on soit porté à se dresser debout et non pas rester couché, tendu, à se plaindre et à critiquer l'Église, à se dire « Ah, c'est comme ci, c'est comme ça, il n'y a rien à faire ». Et il ajoute, Luigi Orione, les gens qui l'ont suivi, les jeunes gens, « Écoutez le cri angoissant des foules qui s'élèvent. » Puis il s'adresse à Jésus. Hein. « Ô vous, Jésus, écoutez ce cri. Ces foules vous appartiennent. Elles sont votre conquête, ô Jésus, mon Dieu et mon amour. » Alors, en face de la moisson qui est immense, qui s'ouvre devant lui, toute cette moisson-là, Don Orione va déployer une énergie peu commune. Un vrai prêtre. Hein. Au début, sa petite œuvre s'est cantonnée dans l'accueil là, des garçons abandonnés, puis la fondation de collèges pour les jeunes sans ressources qui veulent devenir prêtres. Mais bientôt, va s'ajouter des colonies agricoles dans les campagnes, des hospices, la création de villages de charité, oui, où on pratique la charité des villages, puis des léproseries même, ça existait beaucoup là, dans ce temps-là, des lépreux. Hein. Alors, ériger en congrégation là, tout le noyau actif de cette multitude d'institutions va comprendre des prêtres, des frères, des ermites, des religieuses missionnaires, des sœurs aveugles vouées à la prière, etc. C'est incroyable! Une œuvre fantastique que je vous résume comme ça en deux mots. « Et à celui qui entre, disait-il, on ne demandera pas s'il a un nom, mais seulement s'il a une souffrance. » C'est étonnant, absolument étonnant. Alors, sa spiritualité est centrée sur l'amour de Jésus crucifié et ressuscité. Il est de tous les dévouements, et ça surtout à l'occasion des tremblements de terre qui se produisent dans le sud de l'Italie. Son œuvre s'étend, écoutez bien ça, au Brésil, en Palestine, en Argentine, en Uruguay, au Chili, en Pologne, en Albanie, en Angleterre, aux États-Unis. Elle repose sur une vie intérieure intense, en présence de Jésus et de Marie. Il déclare, sans prière, on ne fait rien de bien. Il le répète très souvent, ça. Sans prière, on ne fait rien de bien. Il dit aussi, les œuvres de Dieu se font avec les mains jointes et à genoux. Même quand on court, il faut rester spirituellement à genoux devant lui. En somme, faut être contemplatif. Je répète ces phrases tellement étonnantes, elles sont presque surréalistes. Les œuvres de Dieu se font avec les mains jointes et à genoux. C'est contradictoire, là. Il faut avoir les mains ouvertes et il faut agir avec nos mains. Il dit, les œuvres de Dieu se font avec les mains jointes et à genoux. Parce qu'il ajoute même quand on court, il faut rester spirituellement à genoux devant lui. Et moi, j'adore ce genre de réflexions qui sont un peu surréalistes, un peu folles. La folie de la foi et de l'amour. Alors, Luigi Orione, c'est un disciple, finalement, qui est resté disciple de Don Bosco dans son cœur. Il ne pouvait pas ne pas avoir un amour de prédilection pour la Sainte Vierge. Il vivait avec elle. C'était l'intimité d'un enfant avec sa mère. Il n'entreprenait rien, d'ailleurs, sans lui en avoir fait part dans sa prière. Il lui parle souvent. C'est en Marie, d'ailleurs, qu'il puisait son zèle pour le bien du prochain. Il lui dit, « C'est vous que je veux, ô Sainte Vierge. C'est vous que j'appelle. Je vous appartiens, je vous aime. Portez-moi, ô Vierge bienheureuse, parmi les foules, sur les places, et dans les rues, aidez-moi à accueillir les orphelins et les pauvres. Ô salut, ô toute pure, immaculée Mère de Dieu. Salut, Mère de miséricorde. » Alors, le 8 mars 1940, il est épuisé de fatigue à force de s'être prodigué sans compter. Il est contraint par les médecins de quitter sa chère ville de Tortone pour aller se reposer, ou pas n'importe où, à San Remo. C'est un endroit de villégiature, il y a des beaux palmiers. C'est très beau, San Remo, c'est près de la France, hein? Ça donne sur la Méditerranée, San Remo. C'est très beau. Il dit, « Je ne veux pas vivre et mourir parmi les palmiers, mais parmi les pauvres qui sont Jésus-Christ. » T'es-tu un vrai prêtre? Un vrai de vrai, hein? Alors, on ne l'écoute pas. On espère une amélioration de sa santé. Mais l'heure a sonné. Et le 12 mars 1940, au soir, il s'éteint tout simplement, tout paisiblement, en disant, « C'est curieux, je m'en vais. » Il est enveloppé de la présence de Dieu, il murmure, « Jésus, Jésus. » Et ce sont ses dernières paroles. On peut se poser la question, est-ce que nous allons mourir comme lui? Demandons à Dieu la grâce de mourir comme ça. Dieu, par un effet de sa toute-puissance, a voulu rendre lui-même témoignage à la vertu de Luigi Orione, qui a été son fidèle serviteur. Écoutez bien ça, c'est très important. Son corps est demeuré intact. Eh bien, on nous dit toujours, « Ah, Monsieur Beaugrand-Chapin, vous nous racontez des histoires qui se passent au Moyen-Âge. » Mais c'est pas au Moyen-Âge. Il y a 50 ans, en 1940, son corps est demeuré intact. Alors, évidemment que nombreux sont les pèlerins en Italie qui vont à Tortone, s'agenouiller, prier au pied de la châsse, du bienheureux la châsse, c'est une espèce de grand cercueil vitré. Et le corps de cet homme qui a vécu en une intimité très étroite avec Dieu, il participe, comme à l'avance, à l'incorruptibilité divine. Son corps est incorruptible. On peut lui dire, « Bienheureux Luigi Orione, vous voyez maintenant, dans la vision béatifique du ciel, celui dont vous avez soigneusement gardé la présence par la lumière de la foi. Ou obtenez-nous la grâce de faire fréquemment des actes de foi en la présence de Dieu. Est-ce qu'il n'est pas tout naturel de penser souvent à la personne que nous aimons? Êtes-vous amoureux? Vous pensez à lui, à elle, ou si c'est votre enfant? Vous pensez souvent au regard de cet enfant. On pense continuellement, surtout quand ces êtres-là nous aiment, c'est encore plus. Alors cette vérité que personne ne peut nier a excité les saints, a cultivé dans leur cœur et avec soin la pensée de Dieu présent en eux. C'est un auteur du Moyen-Âge qui dit, « Puisqu'il n'y a aucun moment où l'homme ne jouisse des effets de la bonté et de la miséricorde de Dieu, il ne doit donc y avoir aucun moment où il ne l'est présent à l'esprit. » En d'autres termes, pour parler plus simplement, il n'y a aucun moment où la bonté et la miséricorde de Dieu ne se manifestent. Si notre cœur continue à battre, si nous sommes gardés dans l'existence et que Dieu nous porte, autrement nous disparaîtrions. Dieu porte le monde qu'il a créé. Dieu le maintient. Petite réflexion scientifique. D'où vient l'énergie des atomes? D'où vient l'énergie des protons et des neutrons qui tournent autour du noyau? À une vitesse constante depuis, quoi, 15 milliards d'années que ces atomes sont créés? D'où vient-elle, cette énergie? Qui ne se ralentit jamais, car si elle se ralentissait le moindrement, les atomes seraient transformés, tout cet univers s'effondrerait. Je me pose la question sur le plan scientifique, d'où vient cette énergie? Si ce n'est qu'elle vient de Dieu lui-même. Un des premiers disciples de Saint Bernard. Saint Bernard, moine, le grand maître de la vie cistercienne, comme les trappistes à Oka ici, là, ou les trappistines à Saint-Romuald, près de Québec. Mais un des premiers disciples de Saint-Bernard, pour qui Dieu était l'unique amour, hein, avait bien compris la pensée de son maître Bernard lorsqu'il écrivait que le temps où l'on ne pense pas à Dieu est du temps perdu. C'est sévère. Hein. Faut pas être, comme on dit en langage spirituel, contentieux, avoir de la contentieux, c'est-à-dire être tout tendu, le nerveux, au point d'en maigrir et d'en devenir un paquet de nerfs. Non. C'est un abandon au sens de la présence de Dieu. C'est un souffle qui naît comme dans notre imaginaire et dans notre mémoire. C'est l'amour, quoi. C'est saint Augustin qui disait « Jamais je n'ôterai mes yeux de vous, parce que vous n'ôtez jamais, ô mon Dieu, vos yeux de moi. » C'est beau, hein? Saint Grégoire de Nazianze, aussi, va jusqu'à dire que la respiration doit être moins fréquente en nous que le souvenir de Dieu. Je trouve ça bien sympathique, hein? Saint Grégoire de Nazianze a vécu il y a plus de 1500 ans. Alors, s'il n'est pas possible, en raison, évidemment, de nos occupations, surtout nous, les laïcs, on n'est pas des moines, ou enfin des particuliers, tout ça, on a des activités, des préoccupations, mais si on ne peut pas toujours avoir Dieu présent à l'esprit, il est toujours possible de rester unis à ce qu'il veut de nous. Et ce qu'il veut de nous, c'est ce qu'il y a de plus doux. Que ta volonté soit faite. C'est bien beau, reste-t-il notre Père, puis de dire que ta volonté soit faite, puis de n'en rien faire. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, puis on dit « Ah non, je lui pardonnerai jamais, j'oublierai jamais. » Mais c'est pas possible, je comprends pas que les gens vivent comme ça. Où est notre témoignage? C'est pas surprenant que l'Église semble s'appauvrir. C'est de nous, c'est de notre faute. C'est nous qui sommes responsables. Il suffit de conformer toutes nos actions à ce qu'il veut de nous. À l'instant présent. Il faut être existentialiste, quoi. Je me souviens d'avoir vu ce beau film « Les mains sales ». Oh, c'était en 1950, durant l'été. « Les mains sales » de Jean-Paul Sartre. C'est un film tragique. Et c'est un film où on insiste beaucoup sur l'œuvre à accomplir, ce sont des athées, hein, l'œuvre de justice à accomplir dans l'immédiat. Et c'est l'instant présent qui compte. Et j'étais sorti de la bouleversée parce que je me disais, mon Dieu, des athées qui se rendent compte, puisque nous n'avons pas d'essence, puisque nous ne sommes pas des êtres immortels, puisque Dieu ne nous a pas fait, puisque nous existons, on ne sait pas trop pourquoi, la seule valeur, c'est l'instant présent. Le passé, l'avenir, on ne sait pas ce que c'est, mais l'instant actuel, c'est pour ça qu'on dit des existentialistes, existence immédiate, compte, c'est ça qui compte. Mais pour nous chrétiens, c'est la même chose. Dieu est dans l'instant présent. Il n'est pas hier, il n'est pas demain, il est là. Il suffit de conformer toutes nos actions à ce qu'il veut de nous, tout de suite, là, à l'instant présent, pour l'accomplissement fidèle de notre devoir d'État, comme on disait autrefois, notre devoir d'État. On ne parle plus de ça aujourd'hui. Hein? Le devoir. C'est plutôt ce qu'on cherche à obtenir, ce qui nous revient. Mais notre devoir de servir, d'aider. En somme, il s'agit d'agir par amour pour lui. Je vous rappelle que le 25 novembre 84, Jean-Paul II a béatifié Élisabeth de la Trinité, carmélite de Dijon. Je vous en ai déjà parlé. Je vais y revenir un jour. Elle avait fait du souvenir affectueux de Dieu présent en elle. C'était tout le sens de sa spiritualité, ça. Et par cet acte de la béatification d'Élisabeth de la Trinité, on peut dire que notre Église catholique a reconnu le rôle primordial de l'attention à la présence de Dieu si on veut devenir des saints. Rien de mal à vouloir devenir des saints. C'est Jésus qui dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». C'est un commandement de Dieu, quoi. Alors, cette jeune religieuse, Élisabeth de la Trinité, proposait à tous, y compris aux personnes vivant dans le monde, dans toute cette agitation, elle proposait cette union aux trois personnes divines, présentes en toute âme, en état de grâce. Et elle disait, il me semble qu'au ciel, ma mission sera d'attirer les âmes en les aidant à sortir d'elles-mêmes pour adhérer à Dieu par un mouvement très très simple et tout amoureux. Et de les garder dans ce grand silence du dedans qui permet à Dieu de s'imprimer en elles et de les transformer en lui. Mais il est vrai que dire que la bienheureuse Élisabeth de la Trinité s'était mise à l'école d'une maîtresse de vie spirituelle hors pair. Elle écoutait la très sainte Vierge Marie. Elle disait, il me semble que l'attitude de la Vierge durant les mois qui s'écoulèrent entre l'Annonciation et la Nativité est le modèle des âmes intérieures. Dans quelle paix, dans quel recueillement Marie se rendait et se prêtait à toute chose? Au fond, nous sommes comme Marie. Nous portons Dieu en nous. Nous avons Dieu en nous. Nous sommes comme des mères enceintes. C'est saint Paul qui disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus. C'est le Christ qui vit en moi. Et en somme, la méditation des mystères de la foi, tels qu'on les trouve dans la Bible, dans la tradition, dans les écrits des saints. Ça nous est nécessaire si nous voulons progresser dans l'amour de Dieu. Les saints enseignent même très souvent que sans la méditation quotidienne, il est difficile de se conserver longtemps dans la grâce de Dieu. Il y a un vieil adage, hein, loin des yeux, loin du cœur. C'est vrai aussi dans l'ordre surnaturel. Si on ne dirige pas chaque jour notre regard, le regard de notre âme vers Dieu pour considérer là, ses perfections infinies, tout ce qui est merveilleux en lui, nous en viendrons peu à peu à oublier sa présence, puis à ne plus le prier, et finalement ne plus l'aimer. Et sans lui, quel bien pouvons-nous faire? Sans la grâce qui est lui-même, qui est l'Esprit Saint, y a-t-il une seule tentation à laquelle nous soyons en mesure de résister? La Sainte Vierge nous aidera, nous aussi, à faire oraison. Elle va nous livrer les fruits de sa propre méditation. Elle va les accommoder à nos besoins. C'est la bienheureuse Élisabeth de la Trinité qui disait « Approchons-nous de la Vierge toute pure, toute lumineuse, afin qu'elle nous introduise en celui qu'elle pénétra si profondément et que notre vie soit une communion continuelle, un mouvement tout simple vers le bon Dieu. » Elle avait écrit cette très belle prière dont je vous lis le début. « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement. » Pour m'établir en vous, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. »